travail. Il faut que tu bosses pour la survie, le cash. Bosse pour faire partie du staff. Bosse pour les bimbos, le strass. Faudra que tu bosses et qu'on viendra à la fin. Bosse allongé dans le sapin. Bosse, t'auras plus besoin de rien.
L'alphabet, bien planqué après le Y, qui me suit partout depuis que je suis né, aussi coriace qu'un vieux beefsteak. Ça fait longtemps qu'il m'enquiquine et qu'il s'immisce sans raison à la place du S légitime. Y a toujours un Z à mon nom. J'ai jamais semé la zizanie, ni fait du zèle, ni fait le zouave. Même qu'à l'école on m'a appris à pas zoner au fond des caves. Des fois je suis peut-être un drôle de zèbre, mais je calcule pas mes émotions. Mettez le don dans votre algèbre, virez-moi ce Z à mon nom. Comme dirait Zazie, soyons zen, mais y'a vraiment de quoi être zinzin. J'ai les zygomatiques en berne, je vais exploser comme un zeppelin. J'aime pas vraiment les prises de bec, mais un jour j'irai en zonzon pour avoir zigouillé le mec qu'aura mis un Z à mon nom. Mais qu'est-ce que je leur ai fait à tous, journaux, radio, télévision, pour qu'à chaque fois sous ma frimousse, y'a ce Z qui me file des boutons. C'est pas comme un meuble Ikea, ça s'écrit sans complication, juste F-R-A-S-I-A-K. Y'a jamais eu de Z à mon nom. J'arrête de faire le zigoto dans cette chanson de rien du tout. Je vais casser l'épée de Zorro qui fait des aides un peu partout. Si je vous ai raconté l'histoire, cette consonne qui sonne un peu con, c'est pour que ça vous fasse bizarre vouloir mettre un Z à mon nom. Ça restera pas dans les annales, ça fera pas la révolution, mais ça fait du bien au moral, jouer un peu les zébulons. Allez-vous, il est temps qu'on se quitte, mais retenez bien la leçon. Zéro pointé, promis, je le frite. Un cas à Eric.
drague trop m'angoisse. Pareil si ça passe. Voilà l'intraveineuse. La solution à cause.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste. Et c'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie, comme chaque, pratiquement tous les mercredis, de 9h30 à 10h30. Émission critique de la psychiatrie avec aujourd'hui le compte-rendu d'une conférence débat qui a eu lieu samedi 25 mars 2023, organisé par le CRPA, le Cercle de Réflexion et de Proposition d'Action sur la Psychiatrie, avec pour, bon, ce, comment dire, c'est une conférence débat qui s'est déroulée donc à la GK à Paris, et les thèmes qui étaient soulevés cet après-midi-là était l'empowerment des usagers de la psychiatrie, l'isolement et la contention, la nécessité d'instaurer des contre-pouvoirs et le COFOR, centre de formation au rétablissement, le COFOR Marseille. Il y avait donc 19 personnes présentes, dont une personne en visioconférence, et dont 16 personnes psychiatrisées ou ex-psychiatrisées, et dont 3 professionnels de la psychiatrie ou du droit. Voilà, donc ce sera le contenu de la première partie de cette émission. Il y aura des annonces, agenda, autour de la, pas exactement de la psychiatrie, mais de l'alternative à la psychiatrie, et peut-être d'autres articles si nous avons le temps. Je commence donc tout de suite par ce compte-rendu de la conférence débat du samedi 25 mars 2023 à l'AGK à Paris, avec donc la première intervention qui était celle de Madame Saphir Desvignes, doctorante APHM, Assurance publique Hôpitaux de Marseille, 14h10, voilà, non, bon, ça c'était les horaires, c'est pas très important, suivi d'un débat avec la salle. Donc cette intervention, elle est résumée ainsi, sous la plume de André Bitton et sans doute aussi de Mathieu Bellassène, qui ont écrit à quatre mains, et peut-être d'autres personnes aussi qui ont participé, à ce document, à cet article résumant cette conférence débat. Saphir Desvignes se présente en qualité d'ex-usagère de la psychiatrie et nous résume sa thèse de santé publique en cours de préparation sur l'empowerment des usagers en santé mentale. Cette thématique est très valorisée par les autorités sanitaires, avec une ambiguïté qui la rend attrayante pour les décideurs, les professionnels et les usagers. Il nous est proposé de traduire ce concept anglo-américain par le néologisme empouvoirment, plutôt que par autonomisation ou par pouvoir d'agir. La définition collectiviste de ce concept étant pour une communauté de reprendre un pouvoir qui lui a été supprimé. En l'espèce, de prendre ou reprendre un pouvoir sur soi, ce pouvoir étant aussi une capacité d'intervention dans la cité, acquérir ou réacquérir une pleine citoyenneté. Alors déjà, une petite parenthèse, déjà reprendre un pouvoir sur soi, cela signifie qu'on nous l'avait enlevé tant qu'on était sous le pouvoir de la psychiatrie. Et qu'on, voilà, tant qu'on l'est encore d'ailleurs, et un pouvoir sur soi qui a pour qui nous est ravi sous prétexte justement de nous protéger contre nous-mêmes. Voilà. Donc, je continue. Ce concept, en date des années 1960, donc un empowerment, est lié à la base aux revendications de groupes sociaux opprimés. Les luttes féministes, notamment en Asie du Sud, le mouvement pour les droits civiques des Noirs américains, et en Amérique latine, la pédagogie des opprimés de Paulo Freire. Dans les années 1980, ce concept arrive dans le champ psychiatrique par le biais des séropositifs, préfigurant le mouvement officialisé dans les années 1990 du réseau des usagers ou ex-usagers et survivants de la psychiatrie, voire la psychologie communautaire, Julian Rapaport, psychologue américain. Alors, rappelons aussi que Paulo Freire était un pédagogue brésilien. Il est né en 1921 et mort en 1997. Le contexte américain est celui d'une désinstitutionnalisation accélérée, se traduisant par des fermetures de lits en nombre des institutions psychiatriques. On assiste ces mêmes années à une esthétisation des luttes des minorités et à une récupération de ces luttes par les classes dominantes, Hollywood, show business, etc. Le modèle néolibéral étant celui de l'empowerment individuel, égale une sélection des plus forts, des plus aisés et des plus habiles, des moins atteints, des moins défavorisés. Notion d'activation du patient. Le consensus est artificiel sur ce concept. Dans les faits, les pratiques et les idées diffèrent complètement. Trois modèles théoriques sont en place. Le modèle radical issu des communautés opprimées, émancipation individuelle et collective, émancipation sociale. Le modèle sociolibéral, le modèle néolibéral. Le modèle le plus fréquent est celui néolibéral, aussi appelé empowerment individuel. C'est la logique de la responsabilisation de l'individu en tant que singularité. La traduction concrète étant que les usagers de la psychiatrie n'acquièrent aucun pouvoir, juste des compétences. Absence de rééquilibrage des rapports de force interindividuels et sociaux. Trois niveaux de l'empowerment, individuel, collectif, organisationnel. On défigure ce concept si on ne prend qu'un des trois niveaux. Ce concept est en opposition au modèle biomédical qui donne le pouvoir au corps médical. On opère un tournant vers ce que nous connaissons en France sous le terme de démocratie sanitaire avec une logique participative. En l'espèce, il s'agit d'une participation limitée et contrôlée. Les représentants des patients ont peu de connaissances sur le système de pensée auquel ils participent, sur le système de santé auquel ils participent. Les idées des usagers sont accueillies et retenues quand elles concordent avec l'agenda des détenteurs du pouvoir. À défaut, le financement n'est pas accordé. Cette question, des représentants des usagers décident-ils ou co-décident-ils de la désignation de pair? En psychiatrie plus qu'ailleurs, une croyance est puissante et tenace selon laquelle les usagers ou leurs représentants eux-mêmes, ex-usagers, manquent de fiabilité, cette croyance, ces personnes manquent de fiabilité, de lucidité et de capacité. Les usagers et les représentants d'usagers doivent faire leurs preuves au même niveau que des professionnels tout en étant continuellement sous une invalidation réflexe. Les médecins peuvent faire la preuve qu'ils sont incompétents. Une compétence de principe leur est accordée, ce qui les maintient dans leurs fonctions. Donc là, oui, on parle évidemment de la paire aidance, des médiateurs de santé paire. Je continue. Empowerment et transfert de compétences. Les pairs aidants sont embauchés en bas de la hiérarchie institutionnelle et n'ont pas de possibilité d'évolution de carrière. Ce sont des agents administratifs contractuels non titulaires de la fonction publique hospitalière. sauf quelques exceptions. Il n'y a pas de volonté institutionnelle de pratiquer une intégration de père aidant dans le haut de la hiérarchie institutionnelle, contrairement à ce qui s'est produit aux USA, au Canada, au Royaume-Uni, en Suisse ou en Europe du Nord. Dans les recrutements pour des postes à responsabilité, la phrase « savoir expérientiel bienvenue » disparaît. Une renégociation est nécessaire sur cet enjeu de pouvoir. L'alternative étant soit la rupture radicale, on sort du système institutionnel, soit la collaboration. Les pères aidants sont nécessairement dans une position inconfortable. La redistribution du pouvoir ne peut pas être tendre. Saphir des Vignes ajoute « Certes, ce sont les médecins qui prennent les orientations, néanmoins, nous sommes à un tournant institutionnel et étatique par des législations promouvant une inclusion des usagers du système de santé. » Représentation des usagers de la psychiatrie dans les instances sanitaires et décisionnaires. Les patients doivent-ils se contenter d'un à deux sièges strapontins dans les instances sanitaires à titre consultatif? C'est toute la question de la représentation des usagers du système de santé, singulièrement en psychiatrie, où dominent des relations de domination de type féodal sur les patients. C'est une note de ceux qui avaient fait ce compte-rendu. Alors, on revient à la parole de Saphir des Vignes. Quel poids peut avoir la voix des usagers de la psychiatrie ? Y a-t-il des représentants des patients dûment formés dans les instances décisionnaires où sont décidés l'octroi de subventions, par exemple ? Il devrait y avoir des représentants des usagers de la psychiatrie dans les instances décisionnaires, mais à cette condition que les représentants soient formés et qu'ils puissent intervenir à bon escient. Alors, encore note de la rédaction. Sur ce point, les pouvoirs publics bloquent, ainsi que le prouvent les avanies subies par le CRPA et nos vives protestations durant les décades 2010. Fin de parenthèse. Saphir des Vignes. On demande aux représentants des usagers de la psychiatrie dans les instances sanitaires soit de faire leurs preuves, soit d'être de préférence en état d'incompétence déclarée. Il y a une nette problématique de défaut de transfert des compétences du groupe social dominant au groupe social dominé. La liberté ne se donne pas, elle se conquiert. Même chose pour le pouvoir. Ça c'est pas Saphir des Vignes qui le dit, c'est encore le rédacteur de ce compte-rendu. Saphir des Vignes nous explique en fin d'intervention qu'elle a subi une invalidation partielle de son projet de thèse par le comité d'éthique de l'assistance publique hôpitaux de Marseille et donc par sa direction de recherche. Le comité d'éthique a stoppé son étude dans la mesure où son travail d'enquête sur le terrain aurait été susceptible de perturber des patients schizophrènes qui auraient pu stopper leur traitement, ce qui aurait perturbé leur relation aux soignants. Note donc de la rédaction, blocage typique de ce que l'on rencontre en France qui a entravé le développement de nos mouvements et organisations. Alors après, il y a eu donc ce débat avec les personnes présentes. Docteur Mathieu Bellassène sur l'empowerment falsifié. Ces concepts sont utilisés comme novlangue dans un sens de neutralisation. Comment former un contre-pouvoir ? Madame Desvignes, vous devez faire profil bas, lisser votre discours, vous ferez votre travail sur l'empowerment. Sinon, vous êtes invalidé. Une autre intervention de Madame A.L. Les pratiques novatrices des soignants sont étouffées par les hiérarchies. Les pratiques de rétablissement restent théoriques, mais rien ne suit dans les pratiques. Madame Sarah Massoud, sur le volet pénal dans l'institution judiciaire, les responsabilisations des malades, obligations de soins. La notion d'empowerment a été happée dans le sens de la responsabilisation des personnes atteintes au plan psychiatrique, dans le sens d'une pénalisation accrue, une déshumanisation accrue avec défaut de soins. Voir la problématique des expertises psychiatriques avec une chute statistique des déclarations d'irresponsabilité pénale. Le temps d'audience des contrôles par les juges des libertés et la détention des hospitalisations sans consentement. Le principe du contradictoire, le dossier médical, l'avis médical est dominant. Le rôle du magistrat, c'est de trancher. Quand pouvez-vous penser ? On livre des déclarations violentes à des internés qui ne font pas le poids et n'ont pas l'égalité des armes au sens juridique du terme. Il y a un lâcher-prise. Les psychiatrisés se livrent et disent des choses qu'ils ne diront pas ouvertement. Elle s'efforce d'acter ce que dit le patient. Dans l'ordonnance judiciaire. Oui. Alors, voilà ce qui ressort donc de cette discussion qui a suivi cette intervention de Saphir Desvignes sur son expérience doctorante à PHM. Voilà, on va faire une. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je regarde vite fait. Alors, oui. Bon, on peut continuer aussi. Des usagers devraient... Donc, ce qui se dégage dans la discussion qui a suivi, des usagers devraient être co-décideurs ou concertés, tout au moins auprès des décideurs financiers. Ça, c'est une intervention de Madame Cleau. Docteur Mathieu Bellassen, il faudra faire intervenir les gens de l'AGID, Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale au Québec. Leur réseau d'observateurs est financé par l'État. Le 15 mai est d'ailleurs leur jour anniversaire de gain judiciaire. Une paire aidante. Le premier jour de la licence des médiateurs santé pair, il est nécessaire de faire profil bas et de ne rien dire. Une prise de pouvoir sur ce terrain par certains soignants qui orientent leur carrière vers les thérapies orientées rétablissement. La licence de médiateur de santé pair, qui est distincte du diplôme universitaire de pair aidant professionnalisé, est très lisse. On ne peut pas mettre en œuvre le rétablissement. Si des déclarations d'intention sont en place, elles ne trouvent pas leur traduction dans les pratiques. Voir le premier colloque institutionnel de la FNAPSI le 25 février 2000 dans la salle de conférence du ministère de la Santé le 25 février 2000. Dans l'ensemble, les déclarations des personnes en tribune étaient lissées et consensuelles. Une délégation, donc André Bitton raconte, une délégation du GIA était présente dans l'assistance. On était 7 à 8 personnes, dit-il. Nous étions vus comme des perturbateurs paranoïaques. J'avais émis, ajoute-t-il, une liste de revendications de base. J'avais été applaudi, mais mis de côté avec mes camarades parce que perturbateur. Et donc, Madame S.M., deux réflexions au niveau judiciaire. La notion de responsabilisation va avec tout le volet pénal. Est majoritaire dans l'institution judiciaire d'aller dans le sens d'une responsabilisation des patients. Cela va de pair avec la criminalisation de la maladie mentale. C'est ce qui est fait majoritairement au pénal. Cette notion d'empowerment a été happée par le courant de la pénalisation des faits des patients de la psychiatrie. Ce n'est pas questionné par les magistrats. Il est rassurant de mettre une obligation de soins. C'est une autre manière de normaliser, penchant sécuritaire, responsabiliser les gens et renforcer les axes de contrainte sur la personne concernée. Le temps de l'audience lors des contrôles par le JLD, des hospitalisations sous contrainte, lieu d'une autre parole du patient. Un des grands principes du droit, le principe du contradictoire, où on donne à voir sur le dossier médical un avis juridique. C'est une violence, mais donner la parole, c'est ouvrir un espace de contre-pouvoir. Il existe deux violences, les médecins veulent que vous restiez, le magistrat peut ou non libérer la personne. À ce moment-là, à un lâcher-prise, vous êtes témoin de dysfonctionnement. Le contradictoire ouvre un contre-pouvoir, un autre moment de collectivisation, très solennel, très encadré. Personne ne lit les ordonnances des psychiatres contre les ordonnances judiciaires. Les décisions des juges des libertés et de la détention ainsi que celles des magistrats de cour d'appel dans les contrôles des hospitalisations psychiatriques sont des ordonnances en ce qu'elles sont rendues en procédure d'urgence et en ce qu'elles ne statuent pas au fond du contentieux. C'est une précision apportée par André Bitton. Bras de fer. Ces frictions entre les professionnels de la justice et de la psychiatrie sont intéressantes. C'est dans cet agencement d'un affrontement et d'une dissension que l'on arrive à mettre des choses en place. Est questionnée la pertinence du terme de patient pour un juge. Les personnes hospitalisées en psychiatrie sont, pour l'institution judiciaire, des justiciables. Sur l'accroissement du nombre de maladies mentales et de personnes malades, marginalisation de la population incluse. Alors, contre-pouvoir, banlieue Est de Paris, CLSM d'Argenteuil-Beson, le coordinateur a la volonté de donner la parole et de transformer positivement la parole des usagers en action. Donc, c'est un cas particulier évoqué par Madame O. S'appuyer sur certains éléments de la décentralisation à différents niveaux. Quand les gens ont vraiment le pouvoir, ils s'investissent. Dans les instances où l'on demande aux personnes représentantes des usagers d'y être pour servir de caution, elles se fatiguent et ne revendiquent plus. Voir les positions défendues par 13 dans son témoignage à charge. L'Agence régionale de santé d'Île-de-France a lancé ces derniers mois plusieurs appels à candidatures pour des fonctions de représentation des usagers dans les commissions des usagers des établissements sanitaires de la région capitale. En faisant état d'un manque évident de candidatures, les personnes mandatées par les associations agréées du système de santé ont eu le temps de constater que leur présence ne servait à rien d'autre que de cautionner les déclarations et politiques des directions des établissements et d'être instrumentalisées par les uns et les autres sans pouvoir être effectives dans le cadre de leur mandat de représentation des intérêts des patients. Voilà. Puis, dans cette conférence débat, il y a eu une intervention du docteur Mathieu Bellassène, psychiatre. Son enquête sur l'isolement et la contention, qui se retrouve maintenant dans son dernier livre autour de ces pratiques en psychiatrie, l'isolement et la contention. Donc voilà, il vient de sortir un livre et dont je ne me souviens plus exactement le titre, mais on vous en reparlera sans doute bientôt. On va faire une petite pause et on reprend juste après avec des annonces. C'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie sur Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste.
Je vis chez mes enfants parce qu'on me trouve perlaude. Ils me coupent du pain blanc, rapport à mes dents. Ils me donnent de la soupe, pain gras et pain chaude, et du vin avec deux bouts de sucre dedans. Ils font du bainaise, rapport à mon âge, mais ça c'est le médecin quand des causes bien sûres. Ils m'enferment dans le clos comme une bille en cage, et je peux pas aller plus loin que les quatre murs. La porte, ils veulent pas me l'ouvrir, la porte, quoi que je les ai fait, qu'ils veulent pas que je sorte. Mais ouvrez-la-moi donc, ouvrez-la-moi donc la porte. Et les beaux faucheux qui partent en besogne, non, je sais pas Berlaude, j'ai tous mes esprits, je suis même corps solide et j'ai forte pogne. S'il vous faut quelqu'un pour gerber, venez me crier. Je voudrais bien aller au champ comme tout le monde, j'ai honte de rester comme ça sans œuvrer. À cette heure qui fait doux et que la terre est blonde, si vous me défermez, c'est vous qu'hériterez. La porte, ils veulent pas me l'ouvrir, la porte, quoi que je les ai fait, qui veulent pas que je sorte. Mais ouvrez-la moué, ouvrez-la moué donc, ouvrez-la moué donc la porte. Et mon beau Jean-Pierre, qui est déjà qui fauche, ils disent que je sais vieille, mais tu sais ben que non. À preuve, c'est que je sais corps, si tellement gauche, que je fais le coquelicot en disant ton nom. Va, je nous marierons tout de même et quand même, malgré que t'es pas de coué pour la dot que j'ai. Viens t'en me défermer si c'est vrai que tu m'aimes, et courons acheter le bouquet de rangée. La porte, il veut pas me l'ouvrir, la porte, quoi que j'y ai donc fait, qui veut pas que je sorte. Mais ouvre-la moué, ouvre-la moué donc, ouvre-la moué donc la porte. Mais le galant que j'appelle, c'est défunt mon homme, mais les beaux faucheux passent pas de ce temps-là. Mais ça serait donc vrai que je serais Berlaude de com. Il raconte terre-tout, il fait du verglas. Pourtant, il n'y a quelqu'un qui passe à la porte. C'est monsieur le curé, les chants et le bedion, qui viennent défermer sur terre les vieilles mortes pour les renfermer dans le champ au navio. La porte, on me l'ouvrira bien, la porte, jour de l'enterrement, faudra bien que je sorte. Et vous l'ouvrirez bien, vous l'ouvrirez que je dis, la porte.
Voilà, c'était un poème de Gaston Coutet, chanté par... Oui, je ne sais plus qui. Je ne sais plus son nom. Voilà, donc nous sommes de retour aussi à la GK où se déroulait la conférence débat du 25 mars. Sur le pouvoir des personnes psychiatrisées. Le petit pouvoir que peuvent acquérir parfois les personnes concernées par la psychiatrie. Et donc il y avait une troisième intervention, celle de Aurélie Tinland, psychiatre, chercheur, assistance publique, hôpitaux de Marseille, sur le COFOR, centre de formation au rétablissement, projet porté par Mars, mouvement et action pour le rétablissement sanitaire et social, voire docteur Vincent Girard, structure militante marseillaise pour personnes précaires avec addiction et problématiques de santé mentale, projet de mieux-être entre personnes concernées. Madame Céline Le Tailleur, usagère de la psychiatrie, s'est intégrée dans ce groupe dans le cadre d'un appel à projet qui était financé Elle avait un parcours dans les sciences de l'éducation, elle était en stage à Mars, donc. Ils se sont adossés à une organisation déjà en place, Solidarité et Réhabilitation, localisée à l'IRTS, Institut de Travail Social. Co-construction avec des personnes concernées elles-mêmes sur le modèle du Recovery College, lieu d'apprentissage du rétablissement. Donc voilà, c'est un lieu où on est étudiant du rétablissement, en fait. Modèle américain en date des années 1980. Notion de rétablissement contre la conception selon laquelle l'atteinte psychiatrique est définitive. Considérer qu'il fallait que ce lieu soit essentiellement composé d'usagers de la psychiatrie avec le moins possible de professionnels. Le lieu de formation étant un lieu neutre, non sanitaire, les personnes stagiaires étant présentes en tant qu'étudiantes. Les étudiants du COFOR font des ateliers qu'ils animent sur leur expertise. Le savoir peut émanciper les personnes, échange sur leur établissement dans la salle. Le COFOR a été porté par les usagers de la psychiatrie. Madame Saphir Deving souligne que la docteure Aurélie Tinland, qui intervient ce jour-là, n'est pas usagère de la psychiatrie. La docteure Aurélie Tinland répond qu'elle porte ce projet en tant que chercheur avec la pleine participation des usagers qui ont joué un rôle moteur. À Lille, le projet est entièrement porté par des usagers. Sont proposés au COFOR des modules de formation. Le programme est financé par l'Agence régionale de santé Provence, Alpes-Côte d'Azur. Des groupes d'usagers ont été formés. La pairie et le contenu des cours ont été discutés selon une modalité de démocratie interne. Ils sont passés d'un petit nombre de personnes à près de 40 personnes. Des modules différents ont été mis en œuvre, dont un module sur les droits des usagers selon les centres d'intérêt des personnes qui s'impliquent. Des sessions thématiques ont eu cours selon les priorités des personnes. Parmi ces modules, l'entente de voix, l'arrêt des traitements, la parentalité, vivre avec des troubles psychiques, les modalités alternatives en santé, un module bien-être, l'autodéfense physique et psychique contre la maladie et la stigmatisation. Un cours par semaine sur 12 semaines. Des facilitateurs sont dans l'équipe, des facilitateurs. Pas de validation en fin de cursus. Si les personnes sont venues à plus de 9 séances sur 12, elles reçoivent une attestation. Tous les lundis se réunit un groupe de gouvernance du projet qui décide le programme à venir. Un focus group. Le programme est évalué par des chercheurs de sorte à améliorer la structure. Il s'agit d'une forme d'éducation populaire ou de formation permanente. Avoir une idée des différents parcours de rétablissement. Piocher dans telle initiative pour qu'on puisse s'en servir. Aller vers une automédecine. Le COFOR existe depuis 6 ans, 2017. 300 étudiants ont été formés depuis. Des personnes ont pu se débarrasser d'une auto-invalidation. Les personnes acquièrent des habiletés, des techniques. Les personnes rentrent dans une dynamique d'émancipation et de pouvoir d'agir. À l'origine, le COFOR ne voulait pas s'intéresser à la pérédance professionnelle. Ce thème s'est imposé à eux sur la pression des étudiants. Un module a été lancé sur la formation des pérédants professionnalisés. Le constat étant que la pérédance professionnelle est une petite partie de la pérédance. Une pratique d'autosupport. Des personnes ont été déçues du fait que la pérédance ne soit pas nécessairement l'objet du COFOR. Ces formations enrichissent les parcours professionnels de celles et ceux qui sont déjà intégrés. Les facilitateurs sont des formateurs occasionnels. Voir le développement des plateformes de pérédance. La plateforme Esper Pro, Esper, E-S-P-A-I-R. Il y a eu une alerte de France Asso Santé sur cette forme d'ubérisation de la pérédance en tant que nouveau métier, d'ailleurs. Sur les directives anticipées, le risque des menaces de représailles par l'équipe soignante est souligné. Par exemple, l'exclusion des soins. C'est voilà une anecdote, peut-être, je ne sais pas ce que... L'autosupport, les pratiques d'entraide, voire la dimension militante, Le self-help des anglo-saxons, développé dans les années 1970, puis institutionnalisé. Alors, financement 2016 de la COFOR, ou du COFOR, sur un appel à projet de la DGS, Direction Générale de la Santé, recrutement, gratification des participants, 250 euros par personne à titre de gratification quand une personne a réussi à passer un module. Phase de négociation actuelle en place, voir le COFOR de Lille, Vincent Demassier, et le groupe d'entraide Les Ch'tis Bonheur. Des demandes affluent pour fonder une prestation de ce genre. La docteur Aurélie Tinland espère que des budgets seront débloqués pour essaimer cette initiative. Les Britanniques ont développé 80 Recovery College. Ça doit être 80 Recovery College, collège de rétablissement au Royaume-Uni. C'est noté la question d'une rivalité pour obtenir le poste salarié de coordinateur. C'est d'ailleurs sur cette question polémique que le projet initial d'un COFOR parisien a échoué. Ce que ces sessions totalement bénévoles s'efforcent de pallier. Les coordinateurs sont des responsables de formation, des organisateurs. Ce poste demande une compétence en matière de gestion de réseau et le maintien d'une horizontalité. L'auto-invalidation massive que les personnes psychiatrisées portent est contrée par une intégration de groupe. Un questionnaire de satisfaction est soumis aux personnes stagiaires. Voilà pour ce qui est de la présentation d'une autre alternative donc au programme de soins psychiatriques. Ce genre de formation qui est organisée par les personnes concernées elles-mêmes avec des acteurs professionnels de profession disons venus d'horizons un peu différents quoi. Alors, pour finir cette émission, quelques annonces. Et nous écouterons ensuite l'émission Un rayon de soleil. Underground Psychiatry, association à but non lucratif, loi 1901, organise une formation à Paris intitulée « Travailler avec les voix et autres expériences dites psychotiques » dans la perspective du rétablissement. C'est du 9 au 11 octobre 2023. Le programme en partenariat avec Rêve France, le réseau d'entente de voix France, et l'organisme de formation Vivre ma vie. Underground Psychiatry, Vivre ma vie, Rêve France, travailler avec les voix et autres expériences dites psychotiques dans la perspective du rétablissement, formation à Paris du 9 au 11 octobre 2023, c'est-à-dire 3 jours, 21h. Le programme, le contexte, les personnes dites psychotiques sont confrontées à des expériences extrêmement troublantes et souvent effrayantes pour elles-mêmes, mais également pour leur entourage et les professionnels de santé mentale. L'incompréhension et la peur associées sont des sentiments dominants qui rendent la vie quotidienne comme les soins particulièrement délicats et éprouvants. Afin d'établir un semblant d'ordre dans les expériences dites psychotiques, perception de voix, d'odeur, de vision, conviction inhabituelle et ou problématique, la psychiatrie traditionnelle a tenté de les catégoriser au sein d'entités pathologiques telles que la ou les schizophrénies. Si cette démarche peut servir aux professionnels et aux proches à se rassurer, elle induit souvent dans la relation à l'autre des effets malheureux. En particulier, une asymétrie de pouvoir se met en place qui paralyse tout le monde. D'un côté, ceux qui ne vivent pas les expériences, mais qui savent en théorie, soignants ou proches, et auraient de ce fait légitimité à dire ce qu'il convient de faire. De l'autre, la personne vivant les expériences, démunie de tout savoir et invitée à accepter un rôle de patient soumis. Pris dans cette relation bridée, particulièrement frustrante, patients et soignants proches en sont réduits à se conformer aux habitudes institutionnelles sans perspectives enthousiasmantes. Dans un tel contexte, l'expérience consistant à entendre des voix n'est pas prise en compte dans l'aide proposée aux personnes qui y sont confrontées. Les professionnels de la santé mentale sont formés à ignorer cette expérience considérée comme un symptôme de maladie qu'il conviendrait de chercher à éliminer. Cette façon d'appréhender les voix conduit inéluctablement à un isolement de la personne qui les entend. Cet isolement augmente la souffrance de la personne, entrave le processus de rétablissement et instaure une relation de défiance envers les professionnels, voire les proches. Au cours de cette formation, en redonnant une place aux voix et aux savoirs pratiques des personnes qui vivent les expériences dites psychotiques, nous ferons ensemble l'expérience de la révolution que cela induit dans les pratiques de soins en psychiatrie et dans les relations au quotidien entre toutes les personnes concernées, ouvrant les larges horizons de possibilités du processus de rétablissement. Les objectifs: comprendre la perspective du rétablissement, se relier personnellement à l'expérience du rétablissement, engager un travail de mise en place de pratiques orientées vers le rétablissement, se familiariser avec l'expérience d'entente de voix, expérimenter des techniques pour faire face aux voix, s'approprier des outils d'exploration des voix. Alors, les modalités sont les suivantes. Nous aborderons le concept de rétablissement à travers une approche active permettant aux participants et participantes de le relier à leur vie et ou à leur pratique. Des temps en petits groupes faciliteront les échanges approfondis entre stagiaires et formateurs. Des apports théoriques en grand groupe et des illustrations basées sur des expériences françaises et étrangères enrichiront la réflexion et les échanges. Des exercices de simulation et la restitution de résultats de recherche clinique et épidémiologique permettront d'approfondir nos connaissances. Enfin, des temps en binôme sont prévus, notamment pour qu'un travail s'engage dès que possible entre professionnels et patients autour de l'expérience des voix et dans la perspective du rétablissement. Dans tous les cas, les entendeurs de voix pourront partager leur expérience d'entente de voix et celles et ceux qui ne la vivent pas apprendront à mieux la connaître. Chacun, chacune aura l'opportunité d'envisager les perspectives ouvertes par leur établissement dans sa vie, en tirant au mieux profit de l'expérience d'entente de voix et en apprenant à travailler avec les convictions problématiques. Voilà, donc évidemment, on ne confond pas rétablissement et guérison. Ça n'a rien à voir. Alors, les formateurs nous sont connus puisqu'il s'agit de Vincent Demassier et Yann de Robert. Alors, Yann de Robert, psychologue, clinicien et formateur, s'investit depuis 2009 au sein d'Intervoice, le mouvement international sur l'entente de voix, fondé par le professeur Marius Rome et Sandra Escher. Il a aidé au démarrage de plusieurs groupes d'entendeurs de voix, dont le premier en France en 2010, Hamon en Barluel, et est à l'initiative de la création du réseau français sur l'entente de voix, Rêve France, et de l'organisme de formation Vivre ma vie, dont il coordonne les activités. Il anime régulièrement des ateliers d'éducation populaire sur la folie et la santé mentale à la Cité des sciences et de l'industrie de La Villette, à Paris. Vincent Desmassier, entendeur de voix et ancien patient psychiatrique ayant reçu un diagnostic de schizophrénie, est aujourd'hui président de l'association Réseau français sur l'entente de voix, Rêve France, et formateur au sein de l'organisme de formation Se rétablir. Il facilite plusieurs groupes d'entendeurs de voix dans le nord de la France et témoigne régulièrement de son parcours de rétablissement dans des colloques psychiatriques et des centres de formation de personnel soignant. Il assure des consultations d'entendeurs de voix à l'établissement public de santé mentale Lille Métropole et travaille comme chargé de mission au centre collaborateur de l'OMS en santé mentale en France. Alors donc, 3 jours de formation pour un public de 20 personnes, professionnels, usagers, proches. Nous encourageons vivement les professionnels à venir accompagner d'un ou d'une usager, usagère, afin d'initier un travail commun. Tarif pour les 3 jours, 300 euros pour les salariés retraités et retraités, 150 euros pour les étudiants, 90 euros pour les sans revenus, et voilà. Et donc, et tarif formation professionnelle continue, 750 euros. Alors, voilà, pour toute information et inscription, le email de Yann de Robert, Yann, Y-A-2-N, at, ou arrobas, comme vous voulez, u-p-asso, du 6, bien sûr, .fr. Et je le répète, Yann, arrobas, u-p-asso.fr. Le lieu de la formation, c'est le laboratoire de recherche en santé mentale, 258 rue Marcadet, dans le 18e, à Paris. Alors, voilà pour donc cette annonce. C'est une formation qui aura lieu donc du 9 au 11 octobre 2023. Autre annonce, eh ben, puisqu'on est avec le Rêve France, il y a aussi le 14e congrès mondial Intervoice, le 26 et 27 octobre 2023. Bon, on a un peu de temps devant nous, mais il faut l'annoncer quand même. Rompre le charme de la réalité consensuelle. Alors là, oui, il y a un petit texte aussi qui accompagne la présentation de ce 14e congrès mondial Intervoice. Alors, c'est aussi donc organisé par le réseau d'entente de voix. La réalité consensuelle tire son existence d'institutions sociales qui tendent à masquer la réalité. Nous découvrons la réalité quand nous parlons entre nous, en partageant notre histoire, en nous encourageant mutuellement à faire face à notre passé et à explorer et nous réapproprier nos expériences. La réalité consensuelle, c'est un diagnostic psychiatrique. La réalité, c'est l'omniprésence des abus et des traumatismes. La réalité consensuelle est ce qui unit proches et professionnels à faire la sourde oreille aux cris des patients dans les services psychiatriques. La réalité consensuelle soutient le bras et la seringue injectant de force des médicaments dans des fesses récalcitrantes. La réalité est ce à quoi je peux me relier, qui me permette de me relier à l'autre. À quoi nous sert la réalité consensuelle? Si nous n'étions pas élevés dedans, ressentirions-nous le besoin de la recréer? La réalité consensuelle est peut-être rassurante pour la plupart des gens, confirmant, en cas de doute, qu'on est normal. Mais qu'en est-il alors pour tous les autres? La peur contre la peur. L'un doit-il craindre de perdre la tête du fait qu'il se trouve confronté à la réalité, tandis que les autres craignent de perdre une réalité consensuelle qui ne serait pas conforme aux faits? L'envoûtement par la réalité consensuelle, c'est s'agripper à quelque chose qui paraît solide parce que tous les autres, enfin, pas tous les autres, mais la plupart, s'y accrochent aussi. Et c'est reprocher à celles et ceux qui ne s'y agrippent pas de la fragiliser en ne s'y accrochant pas. Mais, et si celles et ceux qui ne s'y accrochent pas ont effectivement fait l'expérience de son intrinsèque et profonde fragilité, de sa nature évasive et vaporeuse, illusoire, et si celles et ceux qui ne s'y accrochent pas ont effectivement fait l'expérience directe de la dure et froide réalité cachée derrière, quelles que soient vos expériences, racontez-nous comment et quand vous avez pu vous libérer de la réalité consensuelle et ce qui s'est passé alors. Parlez-nous de vos découvertes, des leçons apprises et des questions suscitées. Créez des opportunités pour des personnes de se rencontrer autour de la réalité et de faire l'expérience de ce qui se produit alors. Laissez les questionnements surgir et être mis en commun. Alors, les thèmes suggérés incluent, mais ne se limitent pas à trouver de la réassurance pour dépasser la peur, nous soutenir mutuellement pour regarder au-delà de la violence, nous rencontrer plus en profondeur que nos identités sociales, soulever de multiples voiles de croyances sur les médicaments, imaginer dans sa vie des espaces partagés éphémères, conflits fertiles. Alors, pour nous pour écrire à à cette occasion, c'est lille2023@reffrance.org. Lille, la ville, lille2023@reffrance.org. Donc c'était à propos du 14e congrès mondial Intervoice le 26 et 27 octobre 2023 à Paris. Alors, puisqu'on était aussi avec le CRPA tout à l'heure, il y aura une nouvelle conférence samedi 7 octobre, conférence débat, samedi 7 octobre 2023 à l'AGK, 177 rue de Charonne, Paris, métro Alexandre Dumas, ligne 2. Alors, à propos de l'exploitation des savoirs expérientiels, un livre de poche sur l'abolition de la contention, sur le développement retarder des mouvements de personnes psychiatrisées en France. Donc le premier thème, c'est une intervention de Madame Céline Le Tailleur, les injustices épistémiques dans les recherches dites participatives, sur l'extractivisme sur les savoirs dits expérientiels. Deuxième thème, intervention du docteur Mathieu Bellassène, psychiatre, sur son livre « Abolir la contention ». Sortir de la culture de l'entrave, donc ce livre qui vient de paraître, dont je vous parlais tout à l'heure, publié le 31 août 2023 aux éditions Libertalia. Troisième thème, intervention du rédacteur de ce communiqué, André Bitton, qui est aussi le président de l'association CRPA, sur le développement handicapé des mouvements de personnes psychiatrisées en France. Retour sur la période de 1975 à 1982. Toutes ces interventions sont suivies d'un débat avec la salle. Voilà, donc conférence-débat, mardi 7 octobre 2023 à 14h, de 14h à 18h à l'AGK 177 rue de Charonne. Bien, et vous, pour annoncer votre venue, il est peut-être préférable de d'écrire par exemple au CRPA, alors là c'est tiré du 8, c'est celui qui souligne, CRPA tiré du 8, asso, A2SO, 2010, @bbox.fr. Autre annonce, pour peut-être finir les 5 minutes qui nous restent. Oui, bah, y en a d'autres, oui, des annonces. Alors, il y a la CAS et Pencalette. La CAS et Pencalette vous propose une super soirée avec au programme une écoute d'émissions de radio. Comment affronter une consultation médicale et une discussion de 17h à 19h, suivie d'une bouffe vegan. Disent-ils, on ne sait pas encore quoi ça va être, mais ça va être méga bon. Et enfin, un super chouette concert à partir de 21h avec Glenn Football, VCNCS, Blintage, je ne sais pas, Graffiti. Et le tout est à prix libre et en soutien au collectif de la CAS. Alors, ça se passe où? Ça se passe déjà... attendez, est-ce que je me suis pas trompé de date là? Ah oui, c'est peut-être passé ça. Je ne sais pas. Ah non, c'est en septembre. Non, c'est en septembre, mais c'est. Donc c'est très bientôt. C'est très bientôt. C'est le 23, samedi 23 septembre, à Pencalette, en Bretagne, Ker Henriette Gurunuel. Et la CAS, c'est la Caisse Autonome de Soins et de Santé en Bretagne. Et c'est une Caisse Autonome de Soins et de Santé Mentale en Bretagne. Et voilà ce qu'ils disent. Nous fonctionnons via des dons ou événements de soutien et on essaie de s'interroger sur le rapport aux soins via des discussions, rencontres et infos kiosques. Cette caisse vise à soutenir financièrement les personnes précaires dans leur parcours de soins. Si tu as besoin de bénéficier de cette aide, contacte-nous à lacas, LACA2S, at riseup.net, RISEUP.net. Nous ne t'imposerons pas de démarches particulières ou de paperasses reloues. Parallèlement, nous souhaiterions constituer une liste de praticiennes et de praticiens et réseau d'aide fiable et chouette. Nous sommes ouverts et ouvertes à vos propositions. Donc, bien sûr, pas sérieux s'abstenir. Et il s'agit encore, on peut le deviner, d'auto-support. Enfin, dernière annonce à la librairie Publico, dimanche 24 septembre, il y aura à 16h une projection débat. Bon pied, bon oeil et toute sa tête, handicap et politique. Donc, événement à l'initiative du groupe libertaire d'Ivry. Donc, 24 septembre, 16h, à Publico, projection de Bon pied, bon oeil et toute sa tête. Un film de 80 minutes suivi d'une discussion avec l'équipe de L'Entonnoir, nous-mêmes, émission critique de la psychiatrie sur Radio Libertaire. Alors, l'initiative du groupe Libertaire d'Ivry, aussi qui anime l'émission lundi matin, tous les lundis de 11h à 13h, tous les lundis matins. Et L'Entonnoir sera invité à celle de lundi prochain, qui arrive là. Et nous ferons inversement, nous inviterons les personnes du groupe libertaire d'Ivry mercredi prochain à L'Entonnoir. Donc, handicap et politique, dimanche 24 septembre, avec une grande originalité formelle, soutenant une remise en question radicale, le film Bon pied, bon oeil et toute sa tête analyse les handicaps dans l'histoire et leur représentation. Dans l'histoire de leur représentation et de leur contexte social et politique et documente la lutte des handicapés méchants, des psychiatrisés en lutte et autres trublions des années 70. Bon pied, Bonneuil et toute sa tête a été réalisé en 1978 par Gérard Leblanc et le groupe Cinétique avec le comité de lutte des handicapés et le groupe Information Asile. Avec une grande originalité formelle soutenant une remise en question radicale, ce film analyse les handicaps dans l'histoire de leur représentation et de leur contexte social et politique et documente la lutte des handicapés méchants et psychiatrisés en lutte. Des psychiatrisés en lutte et autres trublions des années 70. Voilà, et donc, eh bien, ainsi se termine l'entonnoir aujourd'hui. Et nous vous disons à la semaine prochaine. Et maintenant, place à l'émission de Radio Libertaire Méditerranée. Un rayon de soleil. Salut.
Soleil.
Le libertaire debout, le soleil à son zénith. Une émission de Radio Libertaire Méditerranée.
Libertà, come si è sveglia.